Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Continuer notre exploration de ce que fait l'art moderne en regardant les œuvres des artistes eux-mêmes, je voudrais parler d'un artiste pour lequel j'ai personnellement le plus grand respect, la plus grande admiration et dont les œuvres me transportent à chaque fois que j'ai la chance de les voir. Et c'est un artiste qui, comme Buren, mais en beaucoup mieux, s'est lui aussi posé une règle extrêmement contraignante. C'est Mark Rothko. Alors, R-O-T-H-K-O. Mark Rothko, c'est un juif letton qui émigre en 1913 aux États-Unis. Et puis, au départ, c'est un peintre pas mauvais, sans plus. Mais c'est à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'il va tout d'un coup comprendre ce qu'il veut réellement faire. Ce que Rothko veut faire, fondamentalement, c'est émouvoir les gens. Il ne veut pas parler à leur tête, il veut parler à leur tripes. Et pour lui, la manière d'atteindre les tripes des gens, d'atteindre le cœur des gens, c'est la couleur. Donc, il veut faire des tableaux qui vont être entièrement dominés par la couleur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tableau de Rothko? C'est un grand rectangle, assez souvent un carré, enfin bon, rectangle ou carré, à peu près de la taille d'un être humain, et dans lequel il y a une teinte de fond, et puis il y a un ou deux, en général deux autres rectangles, avec une autre teinte. Souvent, ces deux autres teintes superposées, supplémentaires, sont des camailleux de la teinte principale. Donc c'est soit plus sombre ou plus dilué, plus soutenu, plus froid, plus chaud. Donc vous avez un grand carré, mettons, vous avez une teinte de fond et deux teintes, deux rectangles avec deux teintes. C'est tout. Juste ça. Trois couleurs, souvent en camailleux, c'est-à-dire la même couleur, plus ou moins claire. Le public, devant une toile de Rothko, jette souvent, avec une voix méprisante, « Moi aussi je pourrais faire ça !» Oui, mais pourquoi est-ce que personne n'est capable de peindre des Rothko? Parce qu'on pourrait se dire, avec un rouleau de peinture, le truc que vous utilisez pour peindre votre mur, vous pourriez faire exactement la même chose. En réalité, Rothko mettait un temps fou à produire ses tableaux. Quand on s'approche d'un tableau de Rothko, on se rend compte qu'il n'a pas été peint au rouleau à peinture, il a été peint à toute petite touche d'un petit pinceau. Je parle bien de tableaux qui font entre 2 et 3 mètres de large et de haut. Alors couvrir ça avec un petit pinceau, hein, le type de pinceau par exemple les peintres médiévaux utilisaient, ça prend beaucoup de temps.
Ça veut dire, d'une certaine manière, que par rapport à ce que tu nous as dit sur Cézanne, où justement il mettait une toute petite touche et puis il retournait s'asseoir, il réfléchissait, il regardait, et puis il revenait une autre petite touche, etc. C'est un peu le même principe, non?
C'est presque le même principe. De fait, Rothko ne produit pas très très vite. Il réfléchit à ce qu'il fait. Et le résultat, c'est que si on est ouvert à ça, un Rothko, c'est extraordinairement tactile et sensuel. C'est une surface qui donc est à peu près à taille humaine. Et s'approcher d'un Rothko, moi je dirais c'est presque comme faire l'amour. On est devant le corps d'une autre personne et tout d'un coup on touche tout. Le front, le nez, les joues, les épaules, les seins, le ventre, le sexe, les cuisses, les genoux, tout touche. Et un Rothko, c'est ça qui se passe. Tout le tableau vous touche, touche, mais vraiment au sens le plus tactile du terme, mais il vous touche, comme tout le monde le sait, il y a 10 000 manières de toucher. Il y a le toucher amoureux, il y a le toucher sexuel, il y a le toucher agressif, il y a le toucher médical, il y a le toucher curieux, il y a le toucher gentil, il y a le toucher naïf. Et ce qui est absolument stupéfiant, c'est que Rothko donc, transmet des émotions extrêmement violentes, extrêmement fortes. Il y a en particulier à Houston, dans le musée de Houston, il y a des Rothko presque noirs. Il ne faut pas y aller quelques jours après qu'on ait perdu quelqu'un, parce que c'est la dépression assurée. Il y a des tas de Rothko tout à fait enthousiastes, heureux, exaltants. Bon, c'est quand même assez plus souvent triste, mais il n'y a pas de Rothko indifférent. Et je dirais que chez Rothko, la boîte de scène, là c'est notre cœur à nous. C'est extraordinaire. Lui, il a réussi à entrer directement dans nos émotions. Et à l'inverse, nous, quand nous regardons ces tableaux, nous nous trouvons totalement, intégralement dans l'émotion qu'il a voulu nous faire ressentir.
Sauf si la personne qui voit cette toile est indifférente d'une certaine manière ou n'est pas touchée, ne rencontre pas simplement la toile.
Il y a deux raisons pour lesquelles un Rothko ne fonctionne pas. Bon, il y a les gens qui n'ont pas nécessairement de grande subtilité émotionnelle, on va dire.
Ça, c'est un, à mon avis, si tu veux, c'est un argument qui ne tient pas forcément. Je n'ai jamais été devant une toile de Rothko. Oui. Je serais curieuse de voir, mais si tu ne veux pas dire si une personne, c'est comme quand on regarde un film, je veux dire, si tu ne rentres pas dans l'univers et dans, justement, l'univers émotionnel de l'artiste, c'est pas pour ça que tu es... Je vais exprès caricaturer, c'est pas pour ça que t'es débile.
Hein. J'en viens justement à l'argument qui d'ailleurs jouerait aussi pour beaucoup de films. La difficulté paradoxale de Rothko, c'est que Rothko fonctionne en général soit avec des gens qui n'ont aucune idée de ce que devrait être la peinture, ou qui à l'inverse la connaissent très bien. Parce que le problème des gens qui connaissent un peu la peinture, mais pas beaucoup, c'est qu'ils vont avoir une idée préconçue, préjugée, sur ce que c'est qu'un tableau. Ils veulent qu'on leur raconte une histoire, en gros. Et quand ils voient ce tableau avec quasiment pas de forme, avec quasiment la même couleur, ils disent mais c'est quoi ? Donc ça leur échappe totalement. Et c'est pour ça qu'il faut soit n'avoir strictement aucun préjugé, ce qui n'est pas si facile et pas si courant, soit connaître la peinture suffisamment bien pour pouvoir accepter ce qu'on voit.
Oui, mais alors là, si on prend par exemple l'exemple de cet artiste, donc Rothko, où intervient ce que tu as expliqué depuis le début, c'est-à-dire la représentation et le signe.
C'est là où c'est vachement intéressant avec Rothko, c'est que ce que je viens de dire là récemment, c'est que dans l'art moderne, on essaye de mélanger la représentation et le signe. Et Rothko y réussit suprêmement bien parce que ses œuvres sont exceptionnelles en ceci que, en un sens, on pourrait presque dire qu'il n'y a ni représentation ni signe. En réalité, ça tourne plutôt du côté du signe parce que malgré tout, cette couleur, ou ces trois couleurs, ou plus exactement, encore plus précisément, cette infinité de toutes petites nuances dans tous les sens, nous nous mettons d'accord, Rothko et nous, pour dire que ces couleurs signifient telle ou telle émotion. Donc en ce sens, un Rothko, c'est plutôt un signe. Mais on est tellement habitué, quand on pense au mot signe, à imaginer la lettre A, le chiffre 5, etc., que Rothko est quelqu'un, est très clairement l'un des artistes qui a poussé le plus loin le fait de complètement mélanger la représentation et le signe, de façon à ce que quasiment on ne se pose plus ce problème, qu'on sorte de cette structure. Je dirais que Rothko est sans doute, de tous les peintres, celui qui a poussé le plus loin, un, le fait qu'on ne reconnaisse pas très bien quelle est la représentation et quel est le signe, et c'est celui qui a un univers à la fois totalement personnel, unique, personne n'a jamais réussi à faire du Rothko, et en même temps quelque chose qui peut parler à nouveau tout le monde, si ces gens sont accessibles à ce type de peinture. Et c'est ça qui est fascinant avec lui, c'est que Il est sur sa planète, mais il y a des artistes qui sont sur leur planète, et c'est une planète qui a quand même, je dirais, presque des panneaux frontières. Lui, non. Lui, je pense qu'on peut accéder au Rothko, quelle que soit sa culture. C'est profondément universel. Et je regrette qu'on n'ait pas fait l'expérience de prendre des Rothko et d'aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'aller dans des pays où il y a encore des tribus de chasseurs-cueilleurs, puis de leur montrer ça, et puis de voir quelle serait la réaction. J'espère que la réaction pourrait être très très forte et très positive. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai vu des gens, et j'ai entendu des gens me raconter qu'ils ont pleuré devant des Rothko. Et je rappelle qu'un de vous, un Rothko, c'est juste un carré presque monochrome, hein, si on n'est pas très... sophistiqué dans la couleur, on dit bah oui, il n'y a qu'une seule couleur, il n'y en a que trois, et des gens pleurent devant ça.
Première question, est-ce que cette impression que fait ce peintre sur les personnes, est-ce que c'est en regardant de près, vu les multiples petits coups de pinceau, ou de loin ? Deuxième question, ce que tu dis par rapport à l'émotion qui est suscitée de cette manière-là, est-ce que ça n'est pas aussi par le fait que ces toiles, ces peintures sont exposées dans un musée ? Et est-ce que ça serait exactement la même impression si ces mêmes toiles, on les sort dans la rue puis on les met au milieu du marché ?
Première réponse. Moi, dans mon expérience personnelle, mais c'est à peu près à chaque fois que j'ai discuté de Rothko avec des gens qui aimaient Rothko, il faut s'approcher d'abord. D'abord, une fois qu'on a rencontré l'œuvre, à nouveau, c'est comme une personne. Je reprends mon exemple, on fait l'amour avec quelqu'un, on va faire l'amour, on ne peut pas le faire à distance. Pour faire l'amour avec quelqu'un, il faut s'approcher de très près. Mais une fois qu'on a fait l'amour, il y a un lien qui ne peut plus disparaître. On peut éventuellement se séparer, mais rien ne pourra plus effacer le fait que pendant un moment, on a fait l'amour. Bah, c'est pareil avec une toile de Rothko. Je pense qu'il faut d'abord s'approcher d'une toile de Rothko, de même qu'il faut au contraire s'éloigner un peu d'une toile impressionniste. À l'inverse, une toile de Rothko, moi je dirais qu'il faut s'approcher, il faut être à 50 cm, voire plus près. Puis après, on peut se reculer. Une fois qu'on a compris quelle est cette émotion qu'il veut transmettre, on peut à ce moment-là la regarder d'un peu plus loin. Il ne faut pas la regarder de trop loin. Si on regarde de trop loin, alors cette vibration disparaît. Donc ce n'est pas des toiles qu'il faut regarder à 30 mètres ou même à 20 mètres. C'est des toiles qu'il faut regarder de relativement près. Et là aussi, pour répondre à ta question sur le marché...
Ou ailleurs, dans la rue,
bien entendu,
sur le quai...
Le contexte, comme on le sait, en art, le contexte est très important. Par exemple, le cinéma, ça peut être montré dans des tas de lieux. Parce que pour le cinéma, il faut au minimum un projecteur, un écran. S'il n'y a pas d'écran, s'il n'y a pas de projecteur, il n'y a pas de cinéma.
Tu ne peux pas faire ce type de comparaison. J'explique pourquoi. Admettons qu'on prenne ces mêmes toiles qui sont dans le musée et qu'on les mette sur un pan de mur, oublions le marché, et que, exactement, disons, dans les mêmes conditions, mais pas dans un musée, pas sacralisé.
Voilà, hein? Ça, c'est ça ton argument. C'est est-ce qu'un Rothko va fonctionner sans l'argument d'autorité du musée ? Voilà. À mon avis, oui. Mais le problème, c'est que ça n'a jamais été tenté.
C'est dommage.
C'est extrêmement dommage.
Parce que sans aller jusqu'à la Papouasie, comme tu disais, le mettre simplement dans la rue pour voir comment les enfants, comment les gens qui passent,
complètement.
Ceci dit, elle serait exposée dans de bonnes conditions.
Non, mais il y a une raison très simple. Un Rothko maintenant, ça vaut 10 millions de dollars, 20 millions de dollars, 30 millions de dollars. Et malheureusement, aucun des propriétaires de Rothko, alors il y a énormément de propriétaires privés qui sont tout simplement des milliardaires américains.
Non mais je ne parle pas de ceux qui ont acheté, je te parle de l'artiste lui-même.
Il est mort.
Dommage qu'il ne l'ait pas fait parce que moi ce qui me choque en tant qu'anarchiste, c'est le fait, si tu veux, de dire que cet homme provoque une émotion, d'abord d'une part parce qu'il est dans un endroit qui est sacralisé,
bien sûr.
D'autre part... par le fait qu'il coûte des millions de dollars.
Alors, attends,
j'en ai rien à foutre.
Mais j'ai pas dit qu'il provoquait l'émotion à cause de ça.
J'ai pas dit que c'était à cause. Je dis que, inconsciemment, la personne qui va voir un Rothko dans un musée,
bien sûr.
Un musée, elle va se sentir gênée de dire « Oh, j'aime pas cette toile. »
Parce qu'elle va se dire
« Ah ben, j'ai rien compris, je suis un peu nulle, etc. » Et a fortiori, si on lui dit « ça a coûté tant de millions de dollars », automatiquement, je suis désolée, on est dans une société où le fait que ça coûte 10 000 dollars, ça devient quelque chose d'important. C'est le phénomène des marques.
La réponse à ça est extrêmement simple. Elle est en deux parties. D'abord, effectivement, il est très dommage que les Rothko ne soient pas exposés ailleurs que dans des musées, parce que ça serait extrêmement intéressant de voir quelle serait la réaction en enlevant l'argument d'autorité du musée et du prix. Première réponse. Deuxième réponse, dans mon cas personnel, mais dans le cas également de tas de gens qui, comme moi, connaissent bien la peinture, je vois très souvent, à Beaubourg ou dans des galeries d'art, des œuvres qui ont tout l'argument d'autorité derrière elles, qui coûtent très très cher et qui me laissent totalement indifférent. Donc, dans mon cas et dans le cas de beaucoup de gens qui aiment Rothko, l'argument d'autorité ne joue pas. Et puis, il y a également quelque chose qui se passe, et que je sais alors là de ma vie personnelle, qui est que, il y a 40 ans, je savais déjà que Rothko existait. J'avais déjà vu des peintures de Rothko. Enfin, je les avais vues en reproduction, ce qui n'est pas la même chose. Mais il me laissait totalement indifférent. Parce que j'avais encore des tas de préjugés sur ce que doit être une œuvre d'art. Et c'est plus tard, quand mon œil s'est ouvert, que tout d'un coup, j'arrive à Beaubourg, et puis je tombe, littéralement, je venais pour une toute autre raison. Puis tout d'un coup, je tombe sur le Rothko. Je m'arrête, Puis ça, ça vaut le coup que je le regarde de plus près. Donc je m'approche, 50 cm, et là, à nouveau, ça a été un massage, ça a été sexuel, ça a été tactile, ça a été tout mon corps.
Ça, c'est pas un argument. Pour moi, ça n'est pas un argument dans le sens où, si l'on songe, par exemple, aux toiles de Van Gogh, qui sont effectivement quelque chose de très fort, eh bien, quand il les a faites, ça voudrait dire que ça dépend de l'époque où les gens ont regardé ces toiles. Les gens n'aimaient pas ces toiles, ne percevaient pas ce qu'il y avait d'inventif, de créatif dans les toiles de Van Gogh. Effectivement, si derrière tu mets sur n'importe quelle toile l'argument de vente, même celles qui peuvent, toi, te laisser indifférent, en fait, c'est valable ça pour n'importe quelle œuvre.
Oui.
Un roman, un essai, une peinture, une musique.
I was in the right.
Yes, absolutely right.
I certainly was in the right.
Rothko est extraordinaire parce qu'il est extrêmement direct. Néanmoins, entre êtres humains, aucune communication n'est jamais totalement directe. On est toujours obligé d'avoir un média. Une communication entre êtres humains est toujours médiane. Ça passe toujours par quelque chose.
Si tu m'expliques Rothko par une histoire de fantasme,
oui,
je marche.
Ah, mais
si tu me fais un truc par rapport à un truc charnel, j'ai du mal à complètement te suivre. Je trouve ça intéressant. Je me dis, attends, il est en train de se prendre les pieds dans le tapis ou il se fout de moi, quoi.
Non, ni l'un ni l'autre. C'est mon ressenti et c'est un ressenti très fréquent.
Ok.
J'ai entendu ça chez beaucoup de gens et j'ai lu ça chez beaucoup de gens. C'est une réaction extrêmement fréquente que provoque Rothko. Bien entendu, toutes les œuvres d'art, quel que soit l'art, provoquent une variété de réactions infinie. De même, si on voulait décrire ma réaction à Bach, ta réaction à Bach, ma réaction à Mozart, ta réaction à Mozart, la réaction de ton concierge à Mozart, évidemment, c'est extrêmement différent. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, un, est-ce qu'il y a des œuvres et des artistes qui provoquent des réactions chez vraiment beaucoup de monde ? Deux, est-ce que ces réactions provoquées sont intéressantes ? Est-ce qu'elles sont authentiques ? Et surtout, est-ce qu'elles couvrent d'autres choses ? Tu as mentionné Van Gogh. Avec Van Gogh, qui d'ailleurs fonctionne justement en un sens de manière extrêmement proche de celle de Rothko, parce que c'est par la couleur, et c'est par une couleur hautement émotionnelle, mais avec Van Gogh, il y a quelque chose qui s'interpose, qui ne s'interpose pas dans le cas de Rothko, c'est que quand les gens voient du Van Gogh, dans la quasi-totalité des cas, ils ont une vague idée de ce que c'était que la vie de Van Gogh. Et il y a eu un excellent livre de Natalia Inich là-dessus, « Van Gogh, c'est le Christ ». C'est le gars qui donne sa vie pour une cause, pour les autres, pour la vie, qui meurt à 30
ans. Nous sommes sur Radio Libertaire.
Exactement, oui, on n'oublie pas, hein, pas de blague. Hein. Excellent bouquin. Et il y a un côté très sacrificiel et compensatoire. On va voir Van Gogh pour payer la faute des gens à l'époque de Van Gogh qui ont méprisé Van Gogh.
Je vais vraiment réagir au débeauté. Le pauvre Van Gogh, c'était un type qui était génial,
mais qui
n'a pas été compris de son temps,
sûr.
Mais qui avait un univers qui racontait quelque chose. Et au-delà des couleurs que tu as évoquées, il y a une chose qui est très importante, c'est que Van Gogh, dans ses couleurs, la manière dont c'était représenté, en fonction des signes qu'il met dans ses tableaux, il raconte une histoire. Mais est-ce que lui raconte une histoire ?
Rothko,
c'est ça la différence.
Il y a à la fois des trucs très communs et des trucs très différents entre Van Gogh et Rothko. Mais
tu me parles d'un ressenti devant les toiles de Rothko qui sont, disons, assez générales.
Oui, oui, exactement. Okay. Exactement.
Et tu me parles...
Tu pourrais même dire générique.
Non, je ne dirais pas.
D'accord.
Il faut que je vois pour savoir. Tu me parles de ce qui est ressenti par le public devant l'étoile de Van Gogh. Or, j'ai parlé avec beaucoup des enfants, parce qu'ils n'ont pas les espèces de frontières que nous avons, nous, en tant qu'adultes. Les gosses réagissent de manière tout à fait différente. Alors, et ils ne parlent pas du Christ.
Par exemple, le bouquin de Heinisch parle beaucoup des spectateurs japonais de Van Gogh, parce qu'il y a eu les Japonais adorent Van Gogh. Mais la manière dont ils structurent, la manière dont il parle de Van Gogh, la manière dont il structure ça, donc la manière dont il présente aux autres, et en grande partie à eux-mêmes apparemment, leur ressenti devant Van Gogh, c'est l'idée à nouveau d'un homme qui se sacrifie, qui donne son sang, qui donne sa vie. Le problème, ce n'est pas ce qu'il a fait, c'est le problème, c'est ce que les gens en pensent.
Il lançait des messages que certaines personnes ne comprenaient pas parce qu'il allait trop loin
dans la
représentation.
Rothko est extraordinaire. C'est un peintre, ça ne marche pas en reproduction, hein.
C'est l'élitisme absolu.
Total, on n'y peut rien. Je n'ai pas de livre de Rothko. Il y en a, je les ai vus, et c'est mort. Les toiles ne parlent pas.
Thank you.
pour les auditeurs et les auditrices de Radio Libertaire, ce que je pense qu'il serait intéressant de dire, mais peut-être moi je suis néophyte donc je ne sais pas, mais j'ai envie de te poser la question. Quand tu parles justement de Marc Roscoe dans de tels mots enthousiastes, les gens réagissent d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est un peu la même chose sur pour un autre artiste qui soulève un peu le même genre de choses, c'est Soulage?
Ah, complètement. Pareil, Soulage, les réactions en général sont absolument tranchées. Il y a des tas de gens dont je suis qui pensent que les œuvres de Soulage sont sublimes. Et là, j'utilise le mot au sens le plus précis du terme. Pour moi, Soulage est le plus grand peintre vivant. Il a 102 ans, donc ça n'a peut-être pas duré très longtemps. Mais c'est vraiment un très très grand peintre. Et pour moi, la quasi-totalité de ses œuvres sont des chefs-d'œuvre. Il y a quelques trucs depuis une dizaine d'années. Il y a un certain style qu'il a eu à un moment que j'aime moins. Mais pour moi, c'est un très très grand bonhomme. Mais le problème de Soulage, c'est que le public n'a pas beaucoup, devant une toile de Soulage, de choses qui l'aident, de choses qui lui sont familières. C'est-à-dire qu'à nouveau, quand le public arrive devant de la peinture, d'abord, il préférerait voir des choses qu'il reconnaît, donc quand même, en gros, le public en général, avec deux majuscules, deux grandes majuscules très généralisatrices, préfère voir de la peinture illusionniste, réaliste, descriptive, on voit de quoi on parle, et devant la peinture abstraite, a déjà plus de difficultés. Et tant Soulage que Roscoe ont une difficulté supplémentaire qui est que, dans le cas de Roscoe, bah souvent dans une toile, il y a deux couleurs, trois couleurs, alors je parle à nouveau de couleurs au sens généralisateur, en réalité, comme j'ai dit, il y a une infinité de couleurs, mais il faut quand même regarder avec attention pour s'en apercevoir. Et dans le cas de Soulage, c'est bien pire. Alors je rappelle à qui ne le connaîtrait pas ou ne le connaîtrait peu, qui est Soulage. Soulage est un peintre français qui appartient à une école d'art très précise au départ qui était l'abstraction lyrique. Et puis Soulage, à mesure qu'il grandit, qu'il mûrit, décide qu'il va se concentrer sur une couleur, le noir. Et il n'est pas satisfait des pigments qu'il trouve et il va créer sa propre couleur, sa propre substance, son propre pigment, dont il ne révèle pas la recette. Et il va appeler ça l'outre-noir, hein, ce qui va plus loin que le noir. Et pour lui, le noir, c'est la lumière. Pourquoi ? Parce que le pigment qu'il a créé, il l'a créé avec un but bien précis. Il faut que ce pigment soit à la fois très très noir, mais qu'en même temps, il reflète la lumière. C'est-à-dire que c'est ça, un pigment complètement paradoxal. Et de fait, ce qui est fabuleux, l'une des choses qui sont fabuleuses avec les œuvres de Soulage, c'est que ce sont des œuvres obsédées par la notion de lumière, qui est évidemment une notion très importante en peinture, mais qui, chez Soulage, est centrale. Ce qu'on regarde dans une œuvre de Soulage, c'est au moins pour moitié le reflet qui en sort. Donc l'éclairage d'une œuvre de Soulage est extrêmement important. En plus, une peinture de Soulage, contrairement à, je dirais, 98% des peintures qui existent, ça ne se regarde pas que de face. Une peinture de Soulage, il faut faire 180 degrés autour. On commence par totalement à gauche, on fait le demi-cercle complet jusqu'à totalement à droite. Et si on pouvait même regarder, je pense, de haut en bas ou de bas en haut, ça serait encore mieux. Il faut vraiment la regarder dans tous les sens. Une œuvre de Soulage, c'est extrêmement polyvalent. Alors qu'est-ce qu'on voit dans une œuvre de Soulage, en particulier du grand Soulage pour moi, c'est-à-dire, même si ses œuvres des années 50, 60, 70 sont absolument fabuleuses aussi, il devient vraiment un grand génie, à mon sens, quand il invente l'outre-noir. Et de fait, une peinture d'entre-noir, c'est comme Roscoe, en ce sens que c'est souvent à taille humaine, hein, c'est souvent de la taille d'un être humain, ou un petit peu plus grand, pas tellement plus, et c'est que du noir. Alors attention, c'est du noir qui est posé, il crée ses propres pinceaux, qui sont souvent pas des pinceaux, qui peuvent être des balais, il modifie des balais, il fait des planches avec des pointes, il fait ceci, il fait cela, donc ça crée des traces totalement différentes. Il crée donc son propre pigment, dans lequel on sait qu'il y a une bonne dose de cirage dans ce pigment, mais il y a également des tas d'autres choses qui ont probablement toute la caractéristique d'être noir, mais je n'en suis même pas sûr. Et on se laisse porter à ce moment-là par deux choses. Un, donc ce reflet, et deux, les lignes. Soulage, c'est quelqu'un qui peint des lignes. Les lignes, c'est essentiel dans notre psychologie. Personnellement, mon prochain livre, celui sur lequel je travaille, ça s'appellera « Éloge des lignes ». Et dans tous les arts, on trouve toujours, quand on gratte jusqu'au fond, à un moment on trouve des lignes. Dans les arts, dans les sciences, etc., on trouve toujours des lignes. Et les lignes de Soulages, alors là, ce sont profondément des signes. Soulages, c'est quelqu'un qui est à 100% totalement dans le signe. Les lignes de Soulages parlent. Alors attention, elles parlent comme la couleur de Rothko parle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre ça dans des mots, ce serait absurde. Mais Soulages, lui aussi, parle d'émotions. Mais ce sont des émotions très différentes de celles de Rothko. Rothko est un gars souvent déprimé et très violent et très fort dans ses émotions. Soulages, c'est quelqu'un d'élevé. Il veut des émotions élevées. Il veut des émotions grandes. Et chose extraordinaire, il y réussit. Et ça n'est pas du tout vaniteux, prétentieux, hiérarchique, autoritaire. Ça n'appartient pas à une idéologie quelconque. Il n'y a pas du tout de relent religieux ou politique au mauvais sens du mot. Mais une peinture de Soulages, ça vous élève, ça vous fait monter, et c'est très musical. Alors c'est musical, pas au sens très foisonnant d'un prélude de Bach, c'est beaucoup plus musical au sens, par exemple, du chant grégorien, ou de tas de musique moderne, où on entend principalement une note, mais une note déclinée avec une texture, un son extrêmement intéressant. Donc c'est à la fois... C'est simple, mais c'est très profond. Récemment, en plein Covid, il a fait une exposition au Louvre qu'il a montée lui-même. Il avait donc 101 ans. 101 ans. Il a peint toutes les toiles, il a choisi leur emplacement, il a travaillé longuement sur l'éclairage. Il a donc exposé dans une salle du Louvre qui, bien entendu, au départ n'était absolument pas conçue pour exposer un artiste dans son genre. Et cette exposition était magnifique, tout comme celle qu'il avait également conçue lui-même, alors il y a beaucoup plus longtemps, il y a une dizaine d'années, à Beaubourg. Et Beaubourg a cet avantage, c'est un espace totalement neutre, donc il a totalement créé la scénographie de A à Z, et c'était une merveille. Et dans l'exposition du Louvre, il n'y avait que des toiles, donc très très récentes, puisqu'il les avait faites pour cette exposition. Dans celle de Beaubourg, il y avait un petit côté rétrospectif, donc il y avait des toiles, on va dire, de sa jeunesse, puis de sa maturité, puis des toiles de la période actuelle. Mais dans tous les cas, c'est absolument magnifique. Mais à nouveau, il n'aide pas beaucoup le spectateur. D'abord, il faut savoir que pour regarder un soulage, il faut regarder le reflet. Il faut regarder un soulage sous tous les angles, ça tous les gens ne le savent pas. Et puis on se retrouve effectivement devant juste une surface noire. Bah, désolé, une surface noire, ça peut être magnifique.
Spoke of life most free from slavery, with eyes that showed no trace of misery. The phrase in connection first with she, oh girl, that love is just a four-letter word. And underfed, you were talking while I hid to the one who was the father of your kid. You probably didn't think I did, but I heard you say that love is just a four-letter. Looking for complete evaporation to the core. Though I tried and failed at finding any door, I must have thought that there was nothing more absurd than that love is just a four-letter word. I see the holy kiss that's supposed to last eternity blow up in smoke, it's destiny. It falls on strangers, travels free. Yes, I know now traps are only set by me, and I do not really need to be assured that love is just a four-letter word. Strange it is to be beside you many years, the tables turn. You'd probably not believe me if I told you all I've learned, and it is very, very weird indeed. lips run through my mind, I cannot cheat. It's like looking in a teacher's face complete. I can say nothing to you but repeat what I heard, that love is just a four-letter word.
Quand on me pose la question, mais comment on pourrait faire pour entrer dans cette peinture ? Bien, ce que je suggère très vivement pour entrer dans cette peinture, le conseil que je donne tout le temps, je demande aux gens, est-ce que vous aimez regarder du marbre, hein, une plaque de marbre? Et souvent les gens me disent, mais oui, c'est magnifique le marbre. Et je leur dis, mais attendez, le marbre, c'est pareil, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de signe, ça raconte rien, c'est juste une couleur ou deux. Ben, c'est pareil, regardez Rothko, regardez Soulage, comme vous regardez une plaque de très beau marbre. Il y a un livre magnifique, involontairement poétique, qui s'appelle « Identification des marbres », très beau livre, et dont le but est exactement ça, de vous montrer des planches avec des différents marbres, il y en a à peu près 80-90, et ça vous dit, ben voilà, c'est du marbre de Carrare, c'est du marbre de Finlande, c'est du marbre de Suède, etc. Et c'est beau à pleurer.
Il y a une chose par rapport au marbre, c'est quand même dans le marbre, tu as des petites veines, des
de calcite, comme ça, des veines voilà. De calcite blanche.
Voilà, ou d'autres couleurs, sûr, peu importe, du gris, etc. Ouais. Il y a des formes.
C'est pareil pour Rothko et pour Soulage.
Dans le noir ?
Oui, il faut regarder. Ah, dans le cas de Soulage, ce sont des formes qui sont des lignes. Encore que souvent aussi, selon la composition exacte du pigment qu'il a décidé d'utiliser ce jour-là, il y a des bulles où il n'y en a pas. Alors, je pense aussi qu'il y a une manière pour lui de poser le pigment qui provoque des bulles, et une manière qui n'en provoque pas. De même, Soulage toujours, la matière de Rothko est très plate, mais la matière de Rothko, au contraire, elle est, si j'ose dire, il y a du dénivelé, il y a des zones plus épaisses et des zones plus minces, il y a des tranchées. Il se passe énormément de choses dans un tableau de Soulage, de même qu'il se passe énormément de choses dans un tableau de Rothko. Simplement, c'est une question d'échelle, c'est-à-dire qu'il faut vouloir aller regarder dans le détail, et puis ensuite reculer un petit peu, retrouver l'ensemble, décider, enfin, regarder ce qui se passe au niveau des différentes zones, puis à nouveau rentrer dans le détail. C'est très précisément ce qu'on fait également devant un tableau de Cézanne, par exemple. Mais en fait, c'est ce qu'on fait devant tous les tableaux. On fait ça devant un Velázquez aussi. Mais c'est vraiment obligatoire, on va dire, devant Cézanne, devant Rothko, devant Soulage. Il faut vraiment aller regarder dans le détail. Et là, il se passe énormément de choses. Puis on s'aperçoit que toutes ces mille petites choses qui se passent dans un Rothko, dans un Soulage, elles sont en même temps organisées. Il y a une vraie harmonie. Il y a vraiment quelque chose qui se passe sur toute la toile. Et c'est très très fort dans un Soulage parce que Rothko, c'est vibrant, mais c'est statique. Alors que Soulage, c'est dynamique. Ça part de quelque part pour aller quelque part. Dans quasiment tous les Soulages, il y a une direction. Alors ça peut être une direction de gauche à droite, de bas en haut, de haut en bas, mais il y a une direction, et cette direction, eh bien, elle est toujours belle, et elle est toujours exaltante.
Et Klein ?
Yves Klein ? Alors Yves Klein, c'est précisément la preuve du génie de Rothko et de Soulage. Yves Klein, c'est précisément un contre-exemple que j'utilise pour faire comprendre Rothko et Soulage. Parce que apparemment, Klein, il fait la même chose. Même encore plus simple, il fait des tableaux où il n'y a que du bleu. Alors c'est un très beau bleu, magnifique. Enfin, bon, c'est un bleu. Mais justement, il ne se passe rien. Alors par exemple, si tu t'approches, ça ne vibre pas comme ça vibre sur un Rothko. Ça ne bouge pas dans un sens ou dans un autre, comme ça bouge dans un Soulage. Émotionnellement, Klein, c'est mort. Yves Klein, l'une des raisons pour lesquelles il est connu, mais il n'est pas admiré, avec le degré d'admiration que des tas de gens éprouvent, que ce soit pour Rothko ou pour Soulage, parce que émotionnellement, c'est mort. Klein, c'était un type intelligent, point. Et très souvent, on le sait maintenant, il a eu des tas d'idées. Mais en fait, ses idées, même ses idées, n'étaient pas nécessairement à lui, parce qu'on sait maintenant qu'en fait, il avait une bande d'amis. Ils étaient 6 ou 7. Ils discutaient. Et dans la discussion, pof, l'idée naissait de faire ceci ou cela. Et la carrière de Klein, c'est ça, et c'est d'ailleurs, et c'est l'un des défauts de l'art moderne, très souvent les artistes, mais après les galeristes, tout le système marchand derrière, il y a quelqu'un qui a eu une idée, Personne n'a eu cette idée auparavant. Et là, tout d'un coup, c'est un génie, c'est quelqu'un de prodigieux. Parce qu'il a eu cette idée, voilà, il est entré dans l'histoire de l'art. Bon, mais ça, c'est triste. Parce que c'est très peu authentique. Ça n'a pas beaucoup de vraies valeurs humaines. Et pour moi, Klein, à nouveau, c'est un artiste qu'on ne peut pas oublier, parce qu'effectivement, il a eu des idées. Mais très franchement, tu me posais la question, est-ce que tu voudrais vivre avec une toile de Rothko chez toi? Alors moi, si tu me posais la question, Jean-Manuel, on va t'offrir deux toiles. Mais tu as le choix, tu peux prendre des toiles soit de Klein, soit de Rothko, soit de Soulages. Alors pour moi, il n'y a aucune hésitation, j'en prends une de Rothko, une de Soulages. Et Klein, je ne le prendrai pas. C'est décoratif, un Klein. Un Klein dans ton salon, c'est très joli. Une grande toile bleue ou d'autres choses, il a fait beaucoup d'autres choses, un Klein. Mais vivre avec, regarder ça tous les jours, ah non. Non, non. Alors que Rothko ou Soulages, il n'y a aucun doute. Moi, si j'avais un Soulages chez moi, mais quel bonheur!
On rêve de musée, mais pas d'être muséifié. Sous la nef, l'ancienne gare, mais personne n'y prend garde. Dans nos poitrails ont lieu tous nos voyages. Dehors, la désolation contemple son ouvrage. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. En bas des tours despotiques où l'on hume l'odeur du mauvais shit. La cité parle l'ancien grec, salade, tomate, oignon, moitié légumes, moitié schneck. Mais peut-on faire la révolution avec Toulouse-Lautrec? Je sais pas, je suis le jeune noir à l'épée. Vénus au bras d'un aigus sous la scandaleuse promesse d'un mariage temporaire derrière un abribus. Si l'interdit participe à l'ardeur du désir, sans doute s'il y avait bienveillance, il n'y aurait pas d'humeur hystérique. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. À l'époque je me disais, et comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter? Et comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais? Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais. À l'époque je me disais, et comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter? Et comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais? Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais?
On a vu nos potes se faire fumer,
hey.
On prône la paix, pas l'épée,
hey.
On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ces décors, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer,
hey.
On prône la paix, pas l'épée,
hey.
On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ces décors, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer,
hey.
On prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ces décors, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer,
hey.
On prône la paix, pas l'épée,
hey.
On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ces décors, on tombe sous ces décombres.
On crève à s'user, l'âme torréfiée sous l'effet couplé des addictions et des renoncements. Ignoré, on constate juste l'avilissement. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, garçon. Dire que nous étions censés la faire, la révolution. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. De vieilles villes frigides qui se la jouent, banlieue lascive se dénude à loisir sur les plages naturistes du oui-dire. Les seins nus, qu'en pensent-ils les injustices que subissent les plus fragiles? Je sais pas, je suis le jeune noir à l'épée.
À l'époque je me disais, et comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter? Et comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais? Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais? À l'époque je me disais, et comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter? Et comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais? Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais?
On a vu nos potes se faire fumer,
hey.
On prône la paix, pas l'épée,
hey.
On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ces décors, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer,
hey.
On prône la paix, pas l'épée,
hey.
On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ces décors, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer,
hey.
On prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ces décors, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer,
hey.
On prône la paix, pas l'épée,
hey.
On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ces décors, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer,
hey.
On prône la paix, pas l'épée,
hey.
On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ces décors, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer,
hey.
On prône la paix, pas l'épée,
hey.
On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ces décors, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer,
hey.
On prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ces décors, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer,
hey.
On prône la paix, pas l'épée,
hey.
On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ces décors, on tombe sous ces décombres.
disais que Roscoe, en fait, on ne pouvait pas vraiment faire des reproductions, que ça ne donnait pas grand-chose, et que même en livre, etc., bon...
Pareil pour Soulages.
C'est la même chose.
Pareil pour Soulages. Soulages, les premiers Soulages, les trucs qu'il a fait pendant, on va dire, 10 mois, jusqu'à la fin des années 70, Soulages fait des formes, il invente des formes magnifiques. Et donc, on peut les reproduire, ça fonctionne quand même. Mais quand il commence à travailler avec son nouveau pigment... Alors là, ça ne sert à rien, parce qu'effectivement, là, sans ça, on voit quoi ? Bon, on voit un truc noir avec des lignes. Et Roscoe, c'est pareil, en particulier si jamais tu le tapes dans l'ordinateur, tu vas sur l'écran, tu vas dire, bah oui, bof, c'est des jolies couleurs, sans plus. Ça ne fonctionne pas, point. Il faut être devant. De même qu'il y a des tas de poèmes qu'on ne peut pas traduire dans une autre langue que la langue dans laquelle ils ont été écrits, parce que tout d'un coup, pof, tout le charme disparaît. Bah, il y a des peintres, je dirais qu'il faut voir tous les peintres directement, mais il y a des peintres qu'on peut voir en reproduction et qui continuent à être intéressants. Je pense par exemple à Jérôme Bosch. Jérôme Bosch, il a des personnages tellement bizarres, étonnants, drôles, qu'en reproduction, ça fonctionne très bien. Et puis il y a des peintres, en reproduction, ça ne fonctionne pas, point. Et ça, ben, Roscoe et Soulages le sont à un très haut degré.
Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir vu certaines de ces toiles, comme tu peux voir même des toiles, d'autres peintres, d'autres époques, souvent, quand tu vois une reproduction, évidemment que tu n'as pas du tout la même émotion. Mais, en fait, l'émotion que tu peux avoir, c'est celle que tu as ressentie auparavant devant la toile en question.
Je vais te répondre de manière apparemment indirecte. Il y a eu récemment une très bonne exposition de Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe est une artiste magnifique, j'adore ses toiles. Et elle, coup de chance, la reproduction ne massacre pas trop ses toiles. Donc j'étais ravi de les voir en direct, mais j'aurais très bien pu ne jamais voir une vraie toile de Georgia O'Keeffe et pour autant continuer à admirer Georgia O'Keeffe. Le grand avantage de Marcel Duchamp, justement, c'est qu'il nous a, entre guillemets, et dans une certaine mesure, libéré du fétichisme de la main de l'artiste. C'est évident qu'il y a un petit côté supplémentaire dans le fait de voir une toile dont on sait que ça, l'artiste l'a touchée. Mais Duchamp a eu raison de dire, mais ça, c'est du fétichisme. Et l'œuvre d'art, elle devrait pouvoir fonctionner sans cette espèce de sacralisation de la main de l'artiste. Mais dans le cas de Roscoe et de Soulages, ça n'est pas du tout ça. C'est pas que c'est la main de l'artiste. Je ressens pas une émotion devant Roscoe ou devant Soulages parce que c'est Roscoe ou Soulages qui l'ont peinte. C'est parce que cette œuvre, elle fonctionne comme ça. Il se trouve que Roscoe directement l'a touché. Bon, d'accord. Mais honnêtement, moi personnellement, je m'en contrefiche. C'est pas mon problème. Et à nouveau, pour Georgia O'Keeffe, Je connais des tas de toiles de Georgia O'Keeffe que je n'ai jamais vues en réalité, que je ne connais que par la reproduction, et qui me rendent très heureux parce que, ben, dans le cas de Georgia O'Keeffe, ça marche. La reproduction, ça marche. Il y a des artistes pour qui ça marche, il y a des artistes pour qui ça ne marche pas. Thank you.
enfin la nostalgie qui colle aux marronniers des cours, des écoles, les méga bastons de marron qu'on attendait arrivaient et ça démarrait, les couples levaient. Ivre de joie, plein de folle énergie, on se lançait dans les gencives des sacs entiers de marron qu'à côté de nous les boxeurs, c'était des piètres amateurs. On jouait à Zorro, à Poulidor, à Paul Newman, à Genesis, à Spider-Man. Le verlan arrivait tout juste à peine pour chasser le vilain louche, même qui déformait les sons qui sortaient de nos bouches. Nous on parlait l'argot, l'arabe et l'homme manouche. Les joutes verbales nous emballaient et tout le monde entrait avec il fallait deviner ce que ça voulait dire. Et celui qui gagnait, c'était celui qui comprenait. C'était pas de la langue, de moi tout ça. Ça brûlait bien plus encore. Pas de la mode, du style ni du blabla. Pas du langage mais du sport. On jouait à Zorro, à Poulidor, à Paul Newman, à Genesis, à Spider-Man. Des pâtes de déclaration d'amour aux saucisses au lieu de sable, nous on leur cinglait les cuisses avec du végétal. Car nous on avait des futales. Elles se mangeaient en nous balançant des gros cartables qui finissaient éventrés vides et sous les tables. C'était le début de la SM, pour nous ça voulait dire je t'aime. Puis on s'embrassait, à l'époque où les cerises tombaient, on ne jouait plus à Zorro. On jouait au docteur, jamais au téléphone sans fil, et pas encore à Tchernobyl. Les filles étaient désespérées par nos jeux de gamins, au commissaire Maigret, au rugby à Tintin. Comment ne pas tous nous haïr, elle voulait juste grandir. Moi j'ai tout fait pour éviter les premiers rendez-vous où il aurait fallu avouer que j'étais meilleur au football, à la balle, aux prisons que pour lui rouler des ballons. On jouait à Zorro, à Poulidor, à Paul Newman, à Genesis, à Spider-Man. D'un seul coup, quand on devient majeur, on vote, on sème, on s'accepte très tôt chômeur. Mais on trafique déjà les fiches de paye pour louer un appart à Marseille, à Paris, à Lyon ou à Clamcy. Et l'on devient très vite sa propre idole. Puis on n'a plus la nostalgie de marronnier des coups, relais d'école.
Silence. Sans résultat, qui niera la simplicité rustique et le côté sympathique de l'action dans tous les cas.
Pourtant la théorie, je vous l'assure, a bien du charme. La méthode directe est moins efficace, souvent perçue à des l'ennemi plutôt que de prendre les armes, est un moyen très séduisant.
Qui dira qu'une propagande intense, jamais persuade en France que ceux qui le sont déjà.
Et là, évidemment, mais quand même l'action directe, quoi.
Pauvre dégonflé, pauvre dégonflé.
Théorie, théorie.
Moi je tiens pour la pratique.
Rien ne vaut la théorie.
On verra, on verra, on verra, on verra.
Tu crois qu'on t'écoute et tu crois qu'on t'attend, mais tu restes seul tout le long de la vie. Tu crois qu'il faut faire un effort pour les gens, maintenant tu as compris. Tu crois qu'on répond à tous tes arguments, tu n'as entendu que l'écho de ta voix. Tout seul tu étais, seul tu resteras, dans cette chambre où te voilà. Et seul tu crèveras, sans personne avec toi.
Les gars, on attaque les banques. Il nous faut des revolvers bien graissés, une bagnole puissante. Bono, il en connaît un rayon dans les voitures. C'est son métier. Il est très fort comme ça.